Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Sauver et protéger les enfants, c'est ce qu'ont eu en tête les membres de l'OSE, autrement dit œuvre de secours aux enfants, dès la nuit de cristal et longtemps après la libération, cacher et mettre à l'abri les enfants juifs pendant la guerre et aider les orphelins de la Shoah à se reconstruire. Et c'est certainement aussi la préoccupation essentielle d'André Salomon, dont nous allons parler aujourd'hui. André Salomon, alors jeune militante sioniste d'Alsace, impliquée dans les mouvements de jeunesse, est aujourd'hui une des grandes figures de la résistance juive en France. Elle a sorti des camps d'internement français des centaines d'enfants et a aidé à les faire quitter la France pour gagner la Suisse, l'Amérique ou Israël. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Georges Weil, historien et conservateur du patrimoine, spécialiste de l'histoire des Juifs de France, qui est aussi le neveu d'André Salomon. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, dans ce livre donc, qui paraît consacré à André Salomon, il y a beaucoup de photos, des photos donc, où on voit cette femme qui avait donc un sourire lumineux, un regard impertinent et décidé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de personnalité elle avait dans vos souvenirs ?
Oui, s'il fallait décrire sa personnalité, il n'y a qu'un mot qui convient, c'était une forte personnalité. Nous, dans la famille, on la connaissait bien, mais les personnes qui avaient à expérimenter cette personnalité s'en souvenaient et tous s'en souviennent. C'était quelqu'un qui, comme on dirait aujourd'hui, n'avait pas froid aux yeux, et ceci depuis son enfance. Quand elle est née dans un petit village d'Alsace, et elle était si déterminée, en plus elle avait les yeux noirs et les cheveux noirs, que on disait que ce n'est pas une vraie Alsacienne, qu'elle était tombée de la roulotte des Romanichel.
Alors, effectivement, on voit qu'il y a une importance, comme vous venez de l'évoquer, Georges Weil, du milieu dans lequel a grandi André Salomon, dans l'atmosphère dans laquelle elle a grandi, donc dans cette ancienne famille de Juifs d'Alsace qui était attachée à la culture française, dans une famille très féminine, un matriarcat, puisqu'elle avait trois sœurs et que son père est mort quand elle était très jeune.
Oui, je sais que certaines des personnes qui ont connu la famille appellent la matriarcat. Je crois que c'est un peu exagéré. Il y avait quand même des hommes. Il y avait les frères de ma grand-mère qui ont repris le travail, la boucherie de mon grand-père quand il est mort en 1917. Et effectivement, je dois reconnaître aussi que ma grand-mère avait une forte personnalité et que rester seule, veuve, en pleine guerre avec cinq enfants, ça n'était pas facile et elle a surmonté ses difficultés.
Alors pour bien comprendre la décision d'André Salomon de s'engager très tôt, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a toujours milité au sein d'organismes de jeunesse. Donc elle est parmi les fondateurs des éclaireurs israélites de France. Donc elle s'épanouit dans le scoutisme. Quels étaient les idéaux et les valeurs de ces mouvements à l'époque qui ont beaucoup compté dans la construction de sa personnalité ?
Oui, vous savez, les valeurs du scoutisme, c'était les valeurs qui avaient été édictées par Baden-Powell, reprises en 1923 par Robert Gamson, qui était le retour à une sorte de nature, mais de façon extrêmement civile, c'est-à-dire pas du tout le retour à la nature prôné par les mouvements de jeunesse allemands, avec le respect de la loi juive, d'une façon libérale, mais néanmoins très stricte, surtout à la fin des années 30, une légère tendance à favoriser le départ en Israël. Ça n'était pas le but des opérations, mais étant donné que la plupart des éclaireurs et des éclaireuses ont fait de la résistance avec André Salomon et avec l'OSE et avec d'autres mouvements de résistance, tout naturellement, les éclaireurs qui avaient adopté l'idéal des éclaireurs israélites de France ont choisi de faire des Harsharot et de partir en Israël.
Alors justement, il faut souligner, et c'est une particularité à l'époque, son adhésion au sionisme, donc une adhésion que ne partageait pas sa famille, si j'ai bien compris, et qu'elle a découverte avec son mari, justement.
Oui, vous savez, la famille n'était effectivement pas sioniste à l'époque, mais qui l'était en France ? Très peu de gens. Les personnes qui avaient adopté cette idéologie, qu'on appeler ainsi parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour des Français qui avaient été émancipés à la Révolution et qui non se sentaient Français. Non. À cette époque, lorsque André Salomon s'est engagée dans les mouvements de jeunesse, où effectivement elle a rencontré son futur mari, personne dans la famille n'était sioniste. Et d'ailleurs, seule la génération suivante, c'est-à-dire la mienne, est devenue vraiment sioniste. Et puis il a fallu, bien sûr, après la création de l'État d'Israël, le mariage des jeunes filles qui avaient émigré là-bas, tout le monde est devenu, sinon sioniste, au moins pro-Israël, comme la majorité des Français après la guerre des six jours.
Alors il faut revenir aussi, Georges Valle, justement sur la rencontre d'André Salomon avec son mari, Toby, puisque c'est, alors si on devait faire des comparaisons, de ces deux personnes engagées qui se rencontrent justement sur le terrain de l'engagement assez jeunes, qui ensuite militent ensemble, on peut penser à Lucie et Raymond Aubrac. C'est un peu ce genre de couple qui se soutient aussi dans l'engagement et qui milite ensemble.
Oui, c'est possible. Je connais mal... bien sûr, je connais de nom Sylvie et Raymond Aubrac. Elle n'était pas juive. Donc, on ne peut pas très bien comparer deux personnes qui étaient quand même réunies par une foi, une croyance commune, même s'ils n'étaient pas de la même origine, puisque son futur mari était d'origine polonaise, de Galicie, une province qui était autrichienne au moment de sa naissance, qui est redevenue polonaise après les traités de la guerre de 14-18. Mais il s'agit effectivement d'une entente qui a duré toute leur vie. Et je pense que c'est assez exceptionnel, étant donné quand même la différence d'éducation qu'il y avait entre une personne qui était née dans un milieu profondément religieux et même peut-être très orthodoxe au sens galicien du terme, et une personne qui l'était au sens alsacien, c'est-à-dire, avouons-le, beaucoup plus laxiste. Encore que ma tante André était profondément religieuse, mais enfin, c'était à la française et non pas à la polonaise. J'ajoute, si vous me le permettez, que le mariage entre une Alsacienne, juive alsacienne, et un Polonais, juif polonais, était doublement hérétique à l'époque, parce que c'était un Polonais, et puis, d'autre part, parce qu'il n'était pas alsacien.
Oui, d'ailleurs, il a fallu beaucoup de sa personnalité à André Salomon pour persuader sa famille que ce mariage était souhaitable.
Vous savez, je pense, je n'étais pas encore né, mais je soupçonne qu'elle a dû mettre sa famille devant le fait accompli. Mais le fiancé était un homme de qualité tout à fait exceptionnelle. C'était un brillant ingénieur des pétroles. Il avait une très belle stature. Sa fiancée a été séduite, m'a-t-elle dit un jour, beaucoup plus tard, par sa pipe, sa moustache et son flegme britannique. Donc il n'avait apparemment, extérieurement, rien de polonais. Pour un Alsacien, tout au moins.
Alors, est-ce qu'on peut évoquer maintenant, Georges Valle, peut-être les premières actions d'André Salomon, c'est-à-dire que elle organise très vite des préparations à l'Alia pour de jeunes Allemands, de jeunes Polonais, pour les envoyer en Palestine, qui n'est alors pas encore Israël.
Oui, vous parlez de la cinquième Alia, c'est-à-dire des jeunes qui venaient d'Europe centrale et beaucoup d'Allemagne à partir de l'avènement du nazisme pour faire des Archarot. Il y a eu deux fermes en Alsace et une autre qui a été formée par le docteur Joseph Veil dans le Maine-et-Loire, si mes souvenirs sont bons. Et on y a envoyé des jeunes gens se sont présentés pour partir. Ils avaient été élevés dans le sionisme et donc ils n'avaient qu'un seul désir, c'est de partir. Le seul problème, c'est qu'étant donné que les Anglais fermaient l'entrée de la Palestine, l'agence juive ne suffisait pas. Il fallait ce qu'on a appelé l'Alia Bess, c'est-à-dire, elle a existé dès les années 35-40, surtout pour les enfants, une immigration clandestine.
Et donc André Salomon s'occupait de préparer ses candidats au départ et puis de faciliter cette immigration.
Absolument. Et je pense que Elle a beaucoup travaillé avec l'Aliabès, ce qui lui a permis, après la guerre, de connaître toutes les filières, ainsi que d'autres comme Georges Loinger ou la plupart des Alsaciens qui ont travaillé avec l'Aliabès, ont connu ça dès les années 35-40 en Alsace.
Alors c'est aussi en 1934 qu'elle fait son premier voyage en Palestine, donc avec son mari, qu'elle découvre alors ce pays dans lequel elle n'ira s'installer qu'en 1970.
Oui, ça a été son grand regret. Elle parlait de la Palestine, elle me montrait les photos. Moi, je pensais que c'était un pays qui, comme on le disait dans la Bible, où coulait le lait et le miel, et où il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser des fruits, un peu comme les Israélites dans le désert. Ça n'était pas cela. Les jeunes Khaloutsim qui partaient de travailler la terre et fonder des kibboutzim, qui tous n'aboutissaient pas. Et André, elle, est restée fidèle à cet idéal, de la même façon que son mari. Il y a eu la guerre, il y a eu l'après-guerre, la naissance d'un fils. Il y a eu l'obligation pour un fonctionnaire comme son mari de rester à la disposition de l'administration parce qu'il occupait un poste important au ministère des Carburants. Et puis, enfin, en 70, ils ont pu satisfaire ce rêve d'aller dans un pays où chaque année, lors du CEDER, on disait l'an prochain à Jérusalem et eux l'ont finalement obtenu.
Alors il faut évoquer bien sûr, Georges Weil, les actions d'André Salomon. Donc dès 1938, après la nuit de cristal, elle commence à accueillir des enfants réfugiés donc de l'orphelinat de Francfort. Elle prend ses premiers contacts avec l'OSE à Paris et elle va travailler d'ailleurs avec l'aide du CAR, du comité d'action aux réfugiés créé par le baron de Rothschild, pour commencer à abriter ces enfants qui arrivent pour le moment nombreux d'Allemagne.
C'est exact. Enfin... Elle n'était pas la seule. Il y avait un comité qui a été créé, des comités propres purement alsaciens, si j'ose dire, puisque obligatoirement, les réfugiés passaient par le pont de Kehl et c'était l'endroit où les enfants ont été accueillis après la nuit de cristal, comme vous l'avez dit, parce que c'était l'endroit où passaient, ou tout au moins les laisser passer accordés par les nazis, ne permettaient de faire transiter des enfants. Ils étaient sûrs aussi d'être bien accueillis en Alsace, mais on ne pouvait pas les laisser en Alsace. Il a fallu d'abord créer une maison d'enfants dans les Vosges, et ensuite, pendant la drôle de guerre, partir aux environs de Paris. L'OSE, elle, effectivement, avait déjà obtenu la création de maisons d'enfants, en particulier à Montmorency, de façon à pouvoir accueillir d'autres groupes d'enfants. Parce que la cinquantaine d'enfants de Francfort, dont vous parliez, ça a été le premier noyau pour André Salomon, mais elle a rejoint, et c'est pour ça qu'elle a pris contact avec l'OSE, elle a rejoint d'autres groupes d'enfants qui étaient arrivés par d'autres destinations et qui avaient été accueillis par la baronne de Rothschild, Germaine de Rothschild, dans son château de la Guette, ainsi que dans d'autres châteaux prêtés par des amis de la famille Rothschild. Et puis, quand est venue la guerre, à partir de 1939, l'OSE a commencé à acheter des châteaux, ou à louer, pardon, ce serait le terme le plus exact, à louer des châteaux un peu partout en France, et c'est pourquoi, dès l'armistice, les enfants ont été mis en sécurité. En sécurité pour 2 ans, parce qu'à partir de 1942, malheureusement, ils ne l'étaient plus.
Alors l'autre volet important de l'action d'André Salomon, c'est donc l'action qu'elle va mener dans les camps d'internement français. Donc elle va être nommée par l'OSE, responsable de l'action sociale au camp de Gurs, de Rivesaltes, au camp des Milles. Et elle va organiser donc là aussi encore la protection, la vie quotidienne des enfants dans ces camps.
Oui, elle a commencé par former des assistantes qui prenaient l'engagement ensuite de rester un certain nombre de mois dans les camps. Certains sont restés 6 mois, certaines sont restées 1 an ou plus. de façon à pouvoir aider les organisations charitables en majorité protestante qui étaient déjà depuis août 1940 dans les camps de Gurs et Drivzal. Mais je crois qu'il faudrait préciser que dès l'armistice, les Allemands ont envoyé en France, pratiquement sans bagage, environ 6 à 7 000 juifs expulsés manu militari du pays de Bade et du Palatinat, dont le gouvernement français, malheureusement, n'avait rien pour les recevoir. Donc on les a mis, comme vous l'avez dit, à Gurs et à Rivesal, parce que c'était des camps qui avaient été créés pour recevoir les familles et les soldats de l'armée républicaine espagnole. Et donc, il y avait encore de la place. Mais il faut dire qu'il y avait de la place, comme je dis. Mais quelle place ? C'était abominable. Il y avait de la boue. Il y avait des parasites, les enfants couchés sur la paille. Il n'y avait pas d'eau courante. Ces baraques, puisqu'il y en avait un grand nombre, étaient dépourvues du moindre confort. Et je ne parle pas de l'éclairage qui était insuffisant. C'était les conditions de vie étaient épouvantables. Et il faut le dire, l'un des premiers à dénoncer ces conditions de vie et à créer des comités pour venir en aide à ces juifs qui n'avaient rien pour les protéger a été le docteur Joseph Veil, qui est également entré, grâce à André Salomon, au service de l'OSÉ, alors qu'il était un médecin indépendant au départ.
Et donc ils ont essayé ensemble à la fois d'améliorer autant que possible, même si le travail était pratiquement infaisable, la vie matérielle dans ces camps, d'aider à installer les familles et puis d'habituer aussi les familles à la séparation, c'est-à-dire de regrouper les enfants ensemble et d'essayer de faire admettre aux parents que le mieux pour les enfants, c'était de les mettre à l'abri et de les faire sortir du camp au plus vite.
Oui, c'est vrai. Il fallait persuader les mères et les enfants qu'ils devaient vivre en dehors du camp, dans les maisons d'enfants. C'est pourquoi, pendant un an et demi, le travail des assistantes et d'André, qui a beaucoup partagé leur vie quotidienne, l'une d'elles m'a raconté d'ailleurs récemment qu'elle partageait tout, même les puces. Mais c'est un peu décrire l'atmosphère et la vie courante de ces enfants et de ces familles. Les vieillards sont pratiquement tous morts d'une maladie de la faim qui s'appelle la cachexie. Les enfants, il fallait les sauver. On les a donc fait sortir, soit de façon officielle avec des autorisations préfectorales, sous la forme de certificats de résidence prouvant qu'une association ou une personne pouvait les recevoir dans un département. Et puis, sans certificat de résistance, en les faisant évader à la barbe des gardiens ou avec leur complicité.
Alors il faut aussi dire que donc ces maisons d'enfants à l'époque sont totalement légales. L'action de l'OSÉ est encore une action qui se fait au grand jour et que c'est à partir de 1942, au moment où le docteur Joseph Veil et puis l'OSÉ réalisent que le sort réservé aux Juifs est avec certitude la mort. Là, les associations se mettent dans la clandestinité et on essaye de manière désormais illégale, de manière clandestine, de sauver les enfants, de fermer les maisons et de les cacher dans d'autres réseaux. Donc là, c'est vraiment la deuxième partie du travail d'André Salomon qui met en place cette action de résistance clandestine.
Oui, c'est la deuxième partie. Le docteur Joseph Veil qui faisait des voyages ou qui a fait des voyages en Suisse et qui avait des relations assez particulières professionnellement avec les anciens services français qui existaient toujours à Vichy mais qui continuaient d'ailleurs à lutter contre les Allemands plutôt que contre les Anglais, l'ont beaucoup aidé. Et en Suisse, il a appris qu'il y avait des massacres en Pologne et que les Juifs qui étaient conduits de France dans l'Est, comme on disait, ou en Haute-Silésie, étaient finalement massacrés. De toute façon, on ne comprenait pas pourquoi on emmènerait des familles sans aucun bagage, sans aucune possibilité de se recréer une autre vie pour travailler. et d'envoyer également des enfants. Les enfants ne peuvent pas travailler.
Les vieillards non plus, bien sûr.
Donc, c'est ce qui a incité l'OSE. Les premières rafles. Alors, ce qui a incité l'OSE à changer entièrement de stratégie, ce sont les rafles d'abord du mois de juillet en zone nord et puis du mois d'août en zone sud. Et là, une bataille absolument fantastique s'est passée, surtout dans les environs de Lyon, à Vénissieux, où l'OSE, pendant trois nuits, a sorti du camp, frôlant la déportation elle-même, en trichant contre les ordres du préfet de Vichy, a sorti les enfants, il les a confiés à une organisation chrétienne. Alors, c'est donc ce point de départ de Vénissieux qui est le changement de stratégie. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul parce qu'il a fallu convaincre les directeurs de maisons d'enfants qui ne voulaient pas se séparer des enfants, ni les faire passer en Suisse, ni les mettre dans des couvents ou chez des personnes privées lorsqu'il s'agissait de jeunes enfants. Et on les comprend un peu, mais c'était extrêmement dangereux de permettre à la police française, qui avait toutes les adresses, de venir prendre les enfants et donc les remettre à Gurs ou à Rivesaltes pour qu'ils partent en même temps que les parents, puisque Laval, qui était président du conseil à ce moment-là, avait dit « on ne sépare pas les femmes et les enfants ».
Alors, effectivement, à ce moment-là, André Salomon, avec d'autres, va se mettre en relation avec le circuit Garel, qui donc va permettre de cacher des enfants, de les faire passer vers la Suisse, de leur faire quitter la France, de les cacher également dans des institutions religieuses. Vous-même, vous avez été caché par ce réseau, sur les conseils de votre tante. Et c'est à ce moment-là qu'elle va finir la fin de la guerre, comme ça, en essayant de sauver et de dissimuler le plus d'enfants possible afin de leur faire quitter le territoire.
Oui, vous savez, c'est une question que Cathy Azan et moi, qui avons écrit ensemble ce livre, nous posons depuis de longues années. Comment fonctionnaient les réseaux de résistance, les filières ou les circuits, comme on les a appelés? C'est le propre d'un circuit secret, c'est de rester secret. Donc même après la guerre, personne n'a fait de confidence. Et dans ces entretiens qu'André Salomon a eu avec l'Université de Jérusalem après son départ là-bas, qui nous ont servi de base pour rédiger ce livre, elle ne fait aucune allusion à la façon dont fonctionnaient ces réseaux. Et Georges Garel, que j'ai bien connu, j'étais encore enfant, mais je l'ai bien connu, était à l'OSE. Je veux dire par là, il est entré à l'OSE après Vénissieux. Et donc, ce n'était pas un réseau différent. C'était deux parties d'un même réseau qui ensuite confiaient à des personnes non-juives, puisqu'il n'y avait dans le réseau Garel que des non-juifs, les enfants à des institutions religieuses avec l'accord de trois évêques du Sud-Ouest. C'est pourquoi la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des enfants ont été cachés dans des couvents, des institutions religieuses ou chez des particuliers dans ce qu'on appellerait maintenant le Sud-Ouest, la région Aquitaine. Mais j'ai appris récemment, et ça a été une surprise pour moi, que le réseau Garel a également fonctionné en Rhône-Alpes et qu'on a retrouvé des enfants qui avaient été cachés par lui.
Alors, il faut donc rappeler, effectivement, Georges Weil, qu'André Salomon a réussi à sauver de nombreux, des centaines d'enfants, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et comme de nombreux militants de l'OSE, son travail a continué après la guerre, où elle a donc aidé à retrouver les enfants cachés, à retrouver les familles, secourir les orphelins, qu'elle considérait donc comme ses enfants, comme on le lit dans le livre. Alors, je rappelle donc, Georges Weil, que le livre que vous avez préfacé, consacré à André Salomon, est disponible dans la collection Témoignages de la Shoah, aux éditions Le Manuscrit. Et il faut savoir donc que le 10 mai, à 17h30, je crois, à l'OSE, au 117 rue du Faubourg du Temple, il y aura donc une présentation de ce livre. Merci encore, Georges Weil. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.